Bonjour à toutes et à tous, au micro Mouhamadou Oumpa pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 23 juillet 2024. Voici le sommaire. En Ouganda, 3 députés, membres de l'opposition, arrêtés par la police avant les manifestations prévues ce mardi et interdites par le gouvernement. Au Libéria, des parlementaires proposent de délocaliser la capitale, loin de Monrovia, surpeuplée et ravagée par les inondations. Ici aux États-Unis, selon les médias, la vice-présidente Kamala Harris est assurée du soutien de la majorité des délégués du Parti démocrate qui investiront dans un mois le candidat de leur parti à la présidentielle du 5 novembre. La directrice du Secret Service reconnaît que ses services ont échoué dans leur mission de protéger Donald Trump après que le candidat républicain a été visé le 13 juillet par une tentative d'assassinat. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, voici le journal. Les autorités congolaises démentent l'information selon laquelle l'Ouganda aurait accueilli des pourparlers de paix entre le gouvernement de la RDC et une alliance de groupes rebelles, dont la milice M23. Les précisions avec Rosine Munezero.
Aucune personne n'a été mandatée par le gouvernement pour une quelconque forme de discussion avec les terroristes du RDF, Force de défense rwandaise M23 à Kampala, a déclaré sur X le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication de RDC. Compte tenu de la complexité de la situation, il s'agit encore d'une réunion secrète, mais les détails seront rendus publics plus tard, a déclaré un responsable du bureau du président ougandais Yoweri Museveni, sans donner de calendrier. Une source au sein du M23 a confirmé les pourparlers, mais a déclaré qu'ils n'avaient pas encore commencé. Après plusieurs années d'accalmie, le M23 a lancé une offensive dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, à la fin de l'année 2021, et s'est depuis lors emparé de vastes pans de territoire. La situation est toutefois relativement calme depuis l'annonce la semaine dernière d'une prolongation de 15 jours de trêve humanitaire entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales. La semaine dernière, Kinshasa a convoqué le chargé d'affaires de l'Ouganda à la suite d'un récent rapport d'experts commandé par le Conseil de sécurité de l'ONU, selon lequel Kampala a porté un soutien actif au M23. Le porte-parole adjoint de la défense ougandaise, Deo Akiki, a qualifié ces allégations de risibles et sans fondement.
En Ouganda, 3 députés de l'opposition ont été placés en détention provisoire, a annoncé la police lundi soir, à la veille de manifestations contre la corruption interdite par les autorités. Les 3 députés arrêtés avec 7 autres personnes sont accusés de divers délits, a déclaré le porte-parole de la police ougandaise, Kituma Rusoke, ajoutant que tous comparaîtraient jeudi. Les 3 députés font partie de la plateforme d'unité nationale, dont les locaux dans la banlieue de la capitale Kampala ont été assiégés par des policiers et des militaires lourdement armés, d'après Bobi Wine, principal opposant en Ouganda. La manifestation prévue ce mardi en direction du Parlement est maintenue par les organisateurs. La police a invoqué des risques de chaos pour l'interdire. Au Niger, la journée du 26 juillet, jour du coup d'État ayant porté les autorités actuelles au pouvoir en 2023, est désormais une fête officielle. Le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef du régime militaire, a signé ce jour une ordonnance au terme de laquelle la journée anniversaire du 26 juillet est instituée fête légale, a indiqué le gouvernement dans un communiqué diffusé lundi soir. Cette mesure permettra de commémorer chaque année les actions hautement patriotiques du peuple nigérien pour l'affirmation de sa souveraineté et de son indépendance, explique ce communiqué. Des festivités sont prévues du 26 juillet au 3 août prochain, date marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Niger. Au Libéria, les graves inondations ces dernières semaines ont poussé un groupe de sénateurs à proposer la création d'une nouvelle capitale loin de Monrovia, surpeuplée et mal gérée. Une idée accueillie à la fois avec enthousiasme et scepticisme dans le pays. John Lyndon.
Des inondations soudaines provoquées par des pluies torrentielles entre fin juin et début juillet ont laissé près de 50 000 Libériens dans une situation d'urgence, selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. La capitale Monrovia, sujette aux inondations depuis plusieurs années, a été particulièrement touchée en partie à cause de la surpopulation, d'un mauvais système d'égout et d'un manque de réglementation en matière de construction. Une commission mixte du Sénat a suggéré des début juillet la création d'une nouvelle capitale lors d'une réunion pour discuter du problème persistant des inondations. Pôle économique, politique et culturel du pays, Monrovia se trouve sur la côte atlantique occidentale du Libéria et compte plus d'1,5 million d'habitants. Elle abrite le principal port du pays, point de départ de ses exportations, notamment le minerai de fer, le caoutchouc et le bois, vers les États-Unis et l'Europe. La proposition de remplacer la capitale n'est pas nouvelle. En 2012, la présidente Ellen Johnson Sirleaf avait suggéré de déplacer Monrovia vers une nouvelle ville appelée Zequepa.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris a remporté le soutien de suffisamment de délégués du Parti démocrate, plus de 1900, pour remporter la nomination de son parti après le retrait de Joe Biden, a affirmé CNN qui a procédé à un décompte état par état. Il n'y a cependant là rien d'officiel et les quelques 4000 délégués démocrates attendus à la convention du parti mi-août à Chicago voteront solennellement plus tard pour désigner le ou la candidate du parti. Mais déjà, Kamala Harris est dite lundi soir, fier d'avoir acquis le large soutien nécessaire pour devenir la candidate du parti. J'ai hâte de pouvoir bientôt accepter formellement cette nomination, a-t-elle ajouté dans un communiqué. La directrice du Secret Service a reconnu hier lundi, lors d'une audition au Congrès, que ses services avaient échoué dans leur mission de protéger Donald Trump. Le candidat républicain à la présidentielle de novembre a été visé le 13 juillet en Pennsylvanie par une tentative d'assassinat. Eric Manirakiza.
La mission solennelle du Secret Service est de protéger les dirigeants de notre nation. Le 13 juillet, nous avons échoué, a dit Kimberly Chatter devant la commission de supervision de la Chambre des représentants. En tant que directrice, j'assume la pleine responsabilité de toute faille de sécurité, a-t-elle ajouté, tout en rejetant les appels à sa démission. Je pense que je suis la meilleure personne pour diriger le Secret Service à l'heure actuelle, a assuré Madame Chatter. Arguant que plusieurs enquêtes étaient en cours, celle-ci a refusé de répondre à de nombreuses questions précises des parlementaires au sujet de l'attaque. Les investigations doivent déterminer comment un tireur a pu se retrouver sur le toit d'un immeuble avec un fusil semi-automatique à moins de 150 mètres de l'estrade où Donald Trump s'exprimait lors d'un meeting à Butler en Pennsylvanie dans le nord-est du pays. Donald Trump, 78 ans, a été blessé à l'oreille par une balle. Un spectateur a été tué et deux autres grièvement blessés. Le tireur Thomas Matthew Crooks, 20 ans, a été abattu par le Secret Service 26 secondes après le premier des 8 tirs qu'il a effectué.
Le secrétaire d'État américain entamera cette tournée.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken embarquera demain mercredi pour une nouvelle tournée de 10 jours en Asie. Il entend y renforcer les liens avec des alliés clés dans une région où la Chine et les États-Unis se livrent une compétition acharnée. Nani Talani.
Le secrétaire d'État américain entamera cette tournée de 6 pays par Hanoï au Vietnam, où il assistera aux funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Au Laos, M. Blinken participera vendredi et samedi à une réunion ministérielle des pays de l'ASEAN et y rencontrera son homologue chinois Wang Yi, sans qu'on sache s'il s'agira d'un entretien bilatéral ou d'un simple échange en aparté. M. Blinken se rendra ensuite au Japon pour une réunion dite à quatre, incluant le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, et leurs homologues japonais, et qui doit porter notamment sur la dissuasion en matière de défense. Le chef de la diplomatie américaine doit par ailleurs participer à Tokyo à une réunion du Quad qui comprend les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. À Manille, il aura un entretien avec le président Ferdinand Marcos et prendra part à une réunion à quatre entre responsables de la diplomatie et de la défense où il sera largement question des provocations chinoises en mer de Chine méridionale. Après une escale à Singapour, M. Blinken achèvera cette nouvelle tournée asiatique en Mongolie pour y renforcer les relations de peuple à peuple, selon Washington.
Le président Joe Biden va quitter ce mardi sa maison de vacances où il était isolé en raison du Covid-19 pour rejoindre la Maison Blanche en début d'après-midi selon son agenda officiel. Joe Biden est depuis mercredi dernier en confinement dans sa maison dans le Delaware. C'est de là qu'il a écrit une lettre aux Américains annonçant dimanche son retrait de la course pour un deuxième mandat. La rencontre entre le président Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en visite à Washington doit avoir lieu jeudi, a fait savoir un haut responsable américain. Le premier ministre israélien, arrivé lundi à Washington, doit aussi prononcer mercredi un discours devant le Congrès et rencontrer dans la semaine la vice-présidente Kamala Harris. Le voyage de M. Netanyahu à Washington intervient sur fond de pression de son allié américain pour conclure un accord de cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza, plus de 9 mois après le début de la guerre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, le district autonome d'Abidjan a mis en place ce lundi une brigade de lutte contre le désordre urbain et veillé à l'application de l'arrêté d'avril portant interdiction du commerce ambulant, de la mendicité et de l'utilisation des charrettes à bras pour le transport de marchandises. Le secteur urbain informel ivoirien emploie près de 7 millions de personnes, plus que les secteurs agricoles ou formels, d'après la Banque mondiale. L'Égypte a réduit sa dette extérieure de 14 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois de cette année, selon son centre de presse. La dette extérieure est tombée à 154 milliards de dollars contre 168 milliards de dollars fin décembre. L'Égypte a quadruplé sa dette au cours des 9 dernières années pour financer une nouvelle capitale, construire des infrastructures, acheter des armes et soutenir une monnaie surévaluée. Pour terminer, en Afrique du Sud, la société pétrochimique Sasol, le plus grand producteur mondial de carburant et de produits chimiques à partir du charbon et du gaz, indique avoir exporté 2,1 millions de tonnes de charbon au cours de son exercice financier contre 2 millions de tonnes précédemment. La société a toutefois signalé une baisse de 2% de sa production de charbon, principalement en raison d'une réduction de ses activités minières.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonjour Mohamedou.
Tournoi olympique de football masculin, Paris 2024, le Malien Koly Sako parle de ses ambitions.
Depuis le 8 juillet dernier, date de sa convocation, le Malien Koly Sako vit un rêve éveillé. « Je ne peux pas décrire les sentiments qui m'animent actuellement », s'exclame le milieu de terrain formé au Havre, en exclusivité au micro de la FIFA. Mon seul regret est de ne pas prendre part à la cérémonie d'ouverture qui s'annonce grandiose en raison de l'enchaînement des matchs. Du haut de ses 22 ans, le natif de Créteil, en banlieue parisienne, se considère comme le régional de l'étape de ses JO.
Le capitaine de l'équipe de France olympique, Alexandre Lacazette, se confie à la FIFA.
Le tournoi olympique de football masculin Paris 2024 commence le mercredi 24 juillet. On est comme un groupe de potes qui vit ensemble. On s'apprécie beaucoup, se réjouit le capitaine de l'équipe de France dans une interview exclusive avec la FIFA. Je suis vraiment content d'être là, j'ai intégré un groupe uni avec des joueurs intelligents, respectueux et passionnés de football. On a tous la même envie, aller au bout et remporter une médaille, prévient Lacazette. Les Bleus accueillent les États-Unis au stade de Marseille lors de la première journée du groupe A.
La Brésilienne Marta participera à son 6e et dernier tournoi olympique de football féminin.
Véritable légende de sa discipline, Marta s'apprête à disputer le tournoi olympique de football féminin. La Brésilienne était déjà de la partie voilà 20 ans. C'est un soulagement parce que c'est très compliqué d'atteindre le très haut niveau, de s'y maintenir pendant de nombreuses années et d'avoir encore l'opportunité de jouer des Jeux Olympiques pour la 6e fois, a déclaré Marta au journal Au Globo. Je travaille évidemment pour ça, a-t-elle dit. D'Athènes 2004 à Paris 2024, le microcosme du football et le monde en général ont beaucoup changé.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumpa, toujours avec vous maintenant, la partie magazine. Kamala Harris, première femme vice-présidente de l'histoire des États-Unis, pourrait être désignée le mois prochain pour occuper la première place sur le ticket du Parti démocrate pour la présidentielle du 5 novembre. Caroline Presutti, notre correspondante principale à Washington, revient sur ses origines et ses quatre dernières années de mandat. Le récit est de Gabi Dorsil.
Un moment historique aux États-Unis en 2021. L'ancienne sénatrice Kamala Harris est devenue la première femme à accéder à la vice-présidence.
C'est un honneur pour moi d'être ici, de me tenir sur les épaules de ceux qui m'ont précédée.
Harris est également la première noire américaine et la première indo-américaine à occuper le deuxième poste le plus élevé de la nation. D'autres démocrates, comme le député Barbara Lee, disent qu'elle montre la voie.
Elle a brisé tant de plafonds de verre pour tant de femmes.
Fille d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, Kamala Harris est née à Oakland, en Californie. Une peinture murale à son effigie apparaît dans l'école où elle a été transportée en bus lorsqu'elle était enfant, dans le cadre des efforts d'intégration raciale. Diplômée de l'université Howard à Washington, D.C., Mme Harris est devenue la première femme procureure de San Francisco en 2004, puis en 2011, la première femme noire à occuper le poste de procureur général de la Californie. Au cours de ses années à la vice-présidence, Kamala Harris s'est exprimée sur l'annulation par la Cour suprême des États-Unis de l'arrêt Roe contre Wade, une décision de 1973 qui avait rendu l'avortement légal dans l'ensemble du pays. Donald Trump, durant son mandat, a nommé trois juges conservateurs à la haute cour.
Il est fier, il utilise le mot « fier », il s'attribue le mérite d'avoir renversé Roe, donc ne vous y trompez pas, si Trump en a l'occasion, il signera une interdiction nationale de l'avortement pour rendre l'avortement illégal dans tous les États.
La vice-présidente se félicite également du maintien de la loi sur les soins abordables et de la réduction du prix de l'insuline obtenue par l'administration Biden.
Levez la main si un membre de votre famille est diabétique.
Très tôt, elle a été pressentie pour diriger les efforts de l'administration à la frontière. Mais la campagne de Biden a fini par se défendre, l'immigration étant un sujet clé de l'élection de 2024.
Désormais, les conjoints sans papier de citoyens américains qui se trouvent dans le pays depuis 10 ans ou plus peuvent y rester, tandis qu'ils demandent la carte verte.
S'adressant à des groupes pro-immigration comme les Asiatiques américains, les Hawaïens natifs et les insulaires du Pacifique, elle a rapidement mis l'accent sur les propos de Donald Trump.
Quelqu'un qui vilipende les immigrés, qui promeut la xénophobie, quelqu'un qui attise la haine, ne devrait plus jamais avoir la chance de se tenir derrière un micro et le sceau du président des États-Unis.
Madame Harris est devenue plus présente lors de rassemblements de ce type pendant la campagne, après la performance décevante du président Biden lors du débat de juin avec l'ancien président Donald Trump.
Nous avons battu Trump une fois et nous allons le battre à nouveau. Point final.
Avec le retrait du président Biden de la course dimanche, si Kamala Harris est investie candidate, elle entrera dans l'histoire en tant que première femme noire et indienne américaine à se présenter à la plus haute fonction de la nation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le président Joe Biden a donc annoncé dimanche sa décision de renoncer à briguer un second mandat, sa vice-présidente Kamala Harris se disant prête à le remplacer pour battre Donald Trump. Pour une analyse de cette actualité, John Lindon s'est entretenu via Skype avec René Lake, journaliste et analyste politique présentement à Porto, au Portugal.
Ses supporters diront que bon, il l'a fait au bon moment parce que c'est une question, c'est une décision extrêmement difficile à titre personnel. Je sais qu'hier, de Blasio, l'ancien maire de New York, qui a été candidat à la candidature démocrate, expliquait que rien que pour lui, qui n'avait pratiquement aucune chance, quand il a dû se retirer, ça a été une décision très 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 difficile à prendre. Et il a dit qu'il imagine que pour Joe Biden, ce serait 10 fois plus difficile. Vu la position de président, de chef de l'exécutif, et surtout que la campagne avait déjà démarré et qu'il s'était engagé à rester candidat. Donc prendre une telle décision ne devait pas être chose facile, John. Il l'a quand même fait, et je crois que, bon, comme vous avez pu l'entendre dans le reportage que l'on vient de suivre, beaucoup de démocrates sont très enthousiastes au niveau des ténors comme au niveau de la base.
Tout à fait. En désistant, Joe Biden a par la même occasion porté son choix et son soutien à Kamala Harris. Est-ce qu'en la choisissant, cela ne fausse pas le débat puisqu'il y a certainement d'autres candidats démocrates potentiels?
Certainement, si on avait le temps, si c'était 6 mois avant l'élection, cette question serait d'une très grande pertinence, John. Mais là, on est à 3 mois de l'élection, on est à 1 mois de la convention des démocrates. Je crois que le calcul de Joe Biden qu'il a fait était un calcul simple. Il s'est dit, je ne peux pas mettre le parti dans une sorte de chaos où il y aurait des multitudes de candidats avec le risque d'une convention qui ne serait pas consensuelle. Il s'est dit, il vaut mieux que je mette tout le poids que j'ai, tout le poids d'influence que j'ai en la proposant. Elle est la vice-présidente, c'est la candidate naturelle.
Et comment tout cela est accueilli dans le camp républicain? On imagine que Trump et ses équipes avaient déjà une stratégie centrée sur Biden. Il va falloir tout revoir.
C'est ça, et c'est bien ce que l'on entend au niveau de certains stratégistes républicains. Ils sont obligés de réexaminer leur stratégie, de reprendre un peu leurs différents calculs, bien que, bon, ils vous disent quand même que c'est un cas d'école qu'ils avaient prévu, et effectivement... J'ai personnellement entendu et lu plusieurs articles dans ce sens où il s'y préparait, mais il s'y préparait de manière, j'allais dire, relativement légère, parce que ce n'était pas le cas de figure le plus probable.
René Lake, journaliste et analyste politique. Le retrait du président Joe Biden est diversement apprécié en Côte d'Ivoire. À Abidjan, la capitale économique, certains trouvent ce geste louable au vu de l'évolution de la situation, mais d'autres estiment qu'il est un peu trop tard compte tenu de l'avance de Donald Trump dans les sondages. Suivons ces réactions recueillies par notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo.
Le retrait de la candidature de Biden, c'est un peu trop tard pour moi parce que les élections, c'est, je crois, en novembre. Et est-ce que celle qui va se présenter, elle a plus de poids auprès de la population que Biden? Je ne pense pas. Et puis Donald Trump, il est un peu plus avancé au niveau de sa campagne électorale. Et avec l'incident qu'il y a eu là, il est un peu plus dans la position de victime. Du coup, il a plus des faveurs de la population. Donc je pense que Trump est bien parti pour gagner.
Arrivé à un certain moment, il faut savoir partir. Parce qu'il a vu que l'adversaire devant lui vraiment est coriace. Et les choix de Biden concernant même la guerre en Ukraine, vraiment c'est un échec total. Donc s'il décide de partir, moi je pense que c'est une bonne chose.
Le président français a décidé, c'est une très bonne chose parce que lui-même à son niveau physiquement il avait commencé à sentir, physiquement et psychologiquement il avait commencé à sentir un peu qu'il y a une certaine faiblesse, une certaine baisse. Ça allait porter le point à son adversaire. Donald Trump aime bien profiter de ces choses-là. Deuxième chose, le fait de mettre sa vice-présidente à sa place, c'est une très bonne chose. Ça donne l'occasion aux Américains de voir un peu, à force de prendre l'habitude de voter pour les hommes, aujourd'hui, allons voter pour une femme pour voir.
Il a compris qu'il y avait un maillon fort devant lui. Et on a vu aussi la tentative d'assassinat.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Des faux audios ont été utilisés pour tenter d'influencer les électeurs lors des élections cette année. Comment l'intelligence artificielle peut aider à détecter les voix artificielles? Écoutons ce reportage de Matt Diebel de la VOA. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
La possibilité de créer des messages vocaux synthétiques, connus sous le nom de deepfake, est désormais à la portée de toute personne disposant d'une connexion Internet. Alors que plus de 50 pays organisent des élections cette année, les efforts se multiplient pour détecter la désinformation avant qu'elle ne cause des dommages. Sarah Barrington effectue des recherches sur les deepfakes audio à l'Université de Californie à Berkeley.
Nous avons besoin de rassembler quelques-unes de vos données.
En seulement quelques minutes, la chercheuse a cloné la voix de ce journaliste en utilisant un service en ligne et a créé une fausse version d'une courte déclaration.
Ta vraie voix ressemble à ça. Et puis nous avons la fausse version de vous ici. C'est assez incroyable. Après le téléchargement dans l'ordinateur, nous commençons par regarder les formes d'ondes et le bruit du signal pour remarquer les différences.
Certains indices sont visuellement apparents pour un œil averti, comme les pauses que les humains ont tendance à faire.
D'une manière générale, on constate plus de pauses chez une vraie personne que dans une fausse voix.
Madame Barrington utilise également un logiciel d'intelligence artificielle entraîné à repérer les fausses imitations.
Ces structures sont très évidentes pour l'IA et peuvent être des petits détails très subtils que nous ne pouvons pas entendre.
Mais si cette fausse imitation a été fabriquée à l'aide d'un système inconnu,
l'intelligence artificielle aura alors beaucoup de mal à comprendre. Il se peut qu'elle ne présente pas exactement les mêmes schémas que les contrefaçons précédentes.
Selon Mme Barrington, la détection, même lorsqu'elle est réussie, peut arriver trop tard pour arrêter un message viral. Et les entreprises de médias sociaux et leurs utilisateurs doivent s'impliquer davantage dans la réduction de la diffusion de contenus qui pourraient être faux.
Nous nous dirigeons vers une solution qui est en partie technique, mais aussi en partie liée au changement dans la société et aux décisions des hommes politiques.
Nous avons tous un rôle à jouer pour éviter les dangers d'Internet.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
Et c'est ici que prend fin cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Koumfa et Siva Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet www.voafrique.com. Vous pouvez également visiter nos différentes plateformes digitales. Vous vous rendez sur Facebook et vous tapez VOA Afrique. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, taper VOA Afrique et également sur X, qui était autrefois appelé Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.